Bonjour et bienvenue à Point de vue, Boris Chassaigne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au sommaire, la loi C-18 n'inquiète pas l'Alliance des radios communautaires du Canada. Selon elle, les pressions et blocages exercés par Meta ne seront que de courte durée.
On dépose une carte à la fois, puis c'est la loi du plus fort qui va l'emporter. Nous, on se base beaucoup sur le modèle australien où ce que ça s'est fait.
Ottawa et la Nouvelle-Écosse investissent près de 3,5 millions dans les installations du futur quartier culturel.
Ça va permettre au Conseil de pouvoir continuer d'avancer avec le projet du quartier. Ce qui veut dire qu'on pourra avoir une salle qui va être fonctionnelle au printemps.
Le concours nord-américain Power Pitch entre dans sa phase finale. 83 entrepreneurs sur la ligne de départ.
Et il y a beaucoup de chanteurs et de pianistes qui sont très bons, mais peut-être qu'ils habitent dans des petites villes ou des villages. On peut faire du mentorat avec des gens n'importe où dans le monde et puis on peut les aider, ces artistes-là.
Et suivre un policier toute la journée sans vous faire arrêter, ça vous tente? Eh bien, la police provinciale de l'Ontario est à la recherche d'auxiliaires bénévoles.
C'est un processus compétitif, c'est difficile. L'OPP fait les évaluations psychologiques, financières, médicales, il y a des tests physiques. C'est comme d'être embauché comme policier.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Merci de nous tenir compagnie aujourd'hui. Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investiront 3,5 millions de dollars afin de compléter le projet du quartier culturel de Chéticamp, en Nouvelle-Écosse. L'annonce en a été faite par Mike Calloway, député fédéral pour Cap-Breton-Canson, lors de son passage à Chéticamp le 14 août dernier. Patrimoine canadien contribue à hauteur de 1,5 million au projet, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse 1,5 million aussi, et l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique va, quant à elle, offrir 500 000 $. Ces investissements vont permettre d'améliorer les installations du quartier culturel, dont l'ouverture est prévue au printemps 2024. Notre journaliste Daniel Aucoin, à Chéticamp, a discuté du financement et de l'avenir du quartier culturel avec Cyril Camus, président du Conseil des arts de Chéticamp.
Cyril, comment importante est l'annonce des gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse pour le Conseil aujourd'hui?
Oh, c'est très, très important, Daniel, parce qu'avec l'annonce du financement, ça va permettre au Conseil de pouvoir continuer d'avancer avec le projet du quartier et de vraiment terminer la finition du quartier, ce qui veut dire qu'on pourra avoir une salle qui va être fonctionnelle au printemps.
Alors, en gros, une fois complété, le quartier culturel, ça va comprendre quoi?
Ben, le quartier culturel va comprendre de deux étages. Au premier, au rez-de-chaussée, il va avoir des bureaux qu'on pourra louer à différents organismes ou personnes qui veulent rendre service à la communauté. On aura un théâtre, un petit théâtre, qui pourra accommoder une 40-50 personnes. En plus, il va avoir comme une cuisine communautaire ou comme un genre café qu'on pourra avoir. Fait que ça, c'est au rez-de-chaussée. Évidemment, il va y avoir la réception, il va même avoir un ascenseur pour monter et ainsi de suite. Mais au premier plancher, il va avoir des salles de conférence puis une galerie d'art. La salle de conférence est grande, elle pourra accommoder à peu près 200-250 personnes, mais elle aura aussi la capacité de diviser en petites salles pour de petites conférences si le besoin est là. Faire des vidéos, des présentations audio-vidéo, accepter des grands rassemblements, ainsi de suite.
On sait que le projet avait premièrement été annoncé en 2017. Il y a eu la pandémie. Est-ce que ça a été beaucoup de travail au cours des dernières années pour convaincre les gouvernements de réinvestir dans le projet?
Je dirais que ça a pris des efforts parce que, comme tu l'as dit, en 2017, quand on a commencé à entamer le processus pour aller chercher les fonds, pour finir le quartier peu après, le problème de COVID a commencé, puis là, tout l'accent était sur COVID, la prévention de COVID, appuyer les entreprises de rester à pouvoir survivre durant l'état de COVID, puis on comprend très bien ça. Puis après ça, ben nous, durant la période, évidemment, nos activités ont cessé, ça fait... Il y a des choses qu'on devait continuer à discuter avec les agences gouvernementales pour à finaliser le projet. Et après que COVID est terminé, là, on s'est remis en place et on a dit, là, on a vraiment besoin de mettre les choses en place pour terminer le quartier. Alors, on a fini par proposer des plans finaux, on a eu des consultations avec la communauté, on a modifié nos plans un petit peu pour répondre aux besoins de la communauté. Et finalement, avec l'appui du CSAP qui s'est embarqué avec nous autres pour nous aider avec la gestion du projet, on a finalement réussi à concrétiser le financement avec le fédéral et le provincial.
On sait que les travaux ont commencé il y a quelques semaines déjà. Est-ce qu'on a une date d'ouverture?
Les budgets, comme qu'ils ont été présentés, tout devrait plus ou moins terminer à la fin mars, mais on s'attend que le tout, probablement qu'on espère pouvoir ouvrir nos portes au grand public fin avril, début mai 2024. C'est ça que nos dates d'ouverture prévues. Alors, c'est ça qu'on s'attend.
En terminant, Cyril, comment importante est la collaboration entre le Conseil des arts de Chéticamp et le Conseil scolaire acadien provincial?
L'entente est très importante et la collaboration est très, très, très importante parce que, comme les gens, il y a des gens qui savent, le CSAP s'occupe de l'entretien de même la salle Père-Anselm Chiasson et aussi va s'occuper de l'entretien du quartier culturel. Et en plus, depuis l'automne 2022, ils se sont embarqués pour nous aider avec la gestion du projet du quartier culturel pour la finition. Alors, eux s'occupent des finances, ils gèrent un peu la partie ingénierie, s'assurer que tout est fait selon les codes et tout ça. Ils sont vraiment notre relation avec le CSAP est très, très, très sont très importantes et ils nous appuient beaucoup dans notre démarche. Alors, ils ont toujours eu on a toujours eu une bonne collaboration avec le CSAP et sans eux, ça serait très difficile de pouvoir poursuivre nos activités.
Cyril Camus, président du Conseil des arts de Chéticamp, félicitations pour l'annonce d'aujourd'hui. Bonne chance avec la suite du projet.
Grand merci, Daniel, puis merci à toi pour la chance de partager avec la communauté.
Salut.
Blocage de l'info sur Facebook et Instagram, l'Alliance des radios communautaires du Canada n'est pas inquiète. Pierre Sicard, le directeur de l'Alliance des radios communautaires du Canada, l'ARC, estime que les mesures de blocage imposées par Meta sur ces plateformes ne seront que de courte durée. Pierre Sicard, qui appuie la loi C-18, votée par le gouvernement fédéral en juin dernier, se dit confiant de voir les négociations en cours aboutir, comme ce fut le cas en Australie. En attendant, il assure que l'ARC du Canada travaille à répondre aux besoins des radios communautaires francophones en situation minoritaire au pays. C'est le mandat de l'ARC, d'ailleurs. De Plamondon, en Alberta, Camille Danis nous a ramené cet extrait de sa conversation avec Pierre Sicard.
On appuie le gouvernement. C'est sûr qu'on a dit « n'oubliez pas les médias communautaires ». Parce qu'on s'entend que C-18 a été créé, ce projet de loi-là, pour protéger surtout les médias majeurs, que ce soit Radio-Canada, CBC, tous les médias qui sont d'importance capitale, où ils ont une profusion de nouvelles qui diffusent dans les médias sociaux et qui n'ont pas cette opportunité-là d'aller chercher la rentabilité publicitaire qui normalement vient avec la visibilité. Donc oui, c'est un véhicule que les médias, le média traditionnel pour des radios comme Boréal peuvent profiter des médias comme Facebook pour agrandir son cercle de gens qui puissent connaître le média. Mais pour les grands médias, eux disaient, ben écoutez, c'est parce que là, les gens nous suivent sur Facebook, mais la publicité, on n'en a pas autant. Donc, automatiquement, on demande à Facebook et Google, ou les grands de ce monde, de compenser du fait qu'ils bénéficient de notre contenu ou du contenu pour publiciser, pour populariser, si vous voulez, promouvoir un peu l'application en tant que telle. Donc, le projet de loi en tant que tel, il est très bon parce que c'est le modèle australien que les Canadiens ont adopté. Les Australiens ont été le premier pays qui a négocié avec Google et Facebook. C'est à peu près la même population que le Canada. On parle de 26 millions. Ils ont fait les mêmes actions pour empêcher, couper et priver les médias de se faire promouvoir à travers des médias sociaux. Par la suite, ils ont plié puis il y a eu des arrangements qui ont été faits. Donc, l'ARC souhaite que le modèle australien puisse se transposer au Canada. Puis c'est une longue réponse, mais pour le problème, c'est que si Canada obtient à peu près ce que l'Australie a obtenu, la Californie attend tout simplement ça, parce que c'est à peu près le même bassin de population. Puis ensuite de ça, ben les autres États, les États-Unis, les autres pays vont embarquer. Donc, ce que Google et Facebook voient en ce moment, c'est si on continue à plier, il va falloir plier partout dans le monde. Donc, il va falloir qu'est-ce qui est préférable de limiter ce qu'on peut mettre sur Facebook puis Google, ou bien d'essayer d'obtenir des arrangements avec les médias en tant que tels. Donc, l'ARC appuie ses 18, mais pour le moment, c'est une période difficile pour les plus petits médias comme les médias communautaires de pouvoir aller chercher ces entités-là pour pouvoir se promouvoir. Fait que là, c'est tout simplement des un peu un jeu de cartes, là, où ce qu'on dépose nos cartes chacun de notre côté, on dépose une carte à la fois, puis c'est la loi du plus fort qui va l'emporter. Nous, on se base beaucoup sur le modèle australien où ce que ça s'est fait. Puis finalement, ben Google et Facebook se sont entendus avec le gouvernement australien pour dire on va faire des projets avec les médias. Ils ont juste à nous approcher par la suite. Puis nous, ce qu'on veut faire avec ça, c'est que c'est pas en faisant un chèque de 5 $ par média que vous allez acheter notre paix. Ce qu'on veut, c'est que vraiment, si Google et Facebook bénéficient puis ils s'aperçoivent qu'il y a une nécessité aussi d'avoir un volet médiatique dans leur application, ben quelque part, nous, on leur fournit le produit puis on demande compensation en retour. Donc, déjà, Google fait des choses pour les OSBL, d'ailleurs, pour les médias communautaires, que ça soit, je pense, c'est l'équivalent de 10 000 $ en publicité par média qu'on peut utiliser. Mais malgré ça, c'est les plus gros qui vont en bénéficier de ces 18. C'est ceux qui fournissent beaucoup de matériel, qui ont beaucoup de visites et de suivi qui se font. C'est avec les gros qui vont négocier. Puis les médias communautaires, il faut absolument trouver un à côté, parce que nous, on ne génère pas assez d'impressions ou de visibilité en tant que telle pour que la nouvelle puisse valoir quelque chose. Donc, le modèle actuel de C18 pourrait donner à peu près 2-3 $ par radio par mois, ce qui n'est pas tout à fait tout juste. Donc, nous, à l'Arc du Canada, on travaille pour essayer d'avoir un consortium de tous les médias communautaires au Canada, de langue francophone dans notre cas, puis d'essayer de trouver une façon d'aller chercher un plus gros magot pour l'ensemble de tous les médias, sans que ça soit mesuré, exemple, tant de sous du clic qui se fait sur une nouvelle en particulier. Il faut s'adapter en ce moment, mais il n'y a rien qui est noir ou blanc. Beaucoup de choses vont changer. On a maintenant la ministre Saint-Onge qui prend le collier de Pablo Rodriguez chez Patrimoine. On travaille de concert avec elle en ce moment. Elle vient d'arriver, mais on travaille de concert avec elle pour que le média communautaire en tant que tel soit protégé là-dedans, puis qu'il ne soit pas encore pénalisé, encore une fois, parce que c'est pas un gros, puis le gros est respecté, mais le plus petit est mis de côté. On travaille très, très fort à avoir une autre forme de financement. Puis pour ce qui est de la visibilité, l'ARC est en train de travailler à différentes façons de donner de la formation auprès de ses membres. On est 28 stations de radio francophones au Canada, à travers le pays, qui sont dans des milieux de minorités linguistiques francophones. Donc, nous, on travaille à ce que le gouvernement puisse compenser pour toutes les manœuvres qu'ils font en ce moment pour donner une chance à ce que le média puisse continuer à survivre, parce qu'on le sait que la francophonie n'est pas... Avec le recensement canadien dernier, on s'est aperçu que les balises de francophonie qu'on s'était imposées ne sont pas atteintes. Donc, le média communautaire devient une source, une façon de générer cette francophonie-là dans certaines régions. L'Arc du Canada travaille très fort en ce moment pour trouver une forme de financement que le gouvernement pourrait nous donner, que ce soit en pub ou en un programme quelconque, pour que les radios puissent continuer à faire leur bon travail.
Bonjour, ici Sébastien Beltran à Halifax. Vous écoutez Point de vue, suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
La police provinciale de l'Ontario est à la recherche de policiers en herbe qui souhaitent participer au programme des auxiliaires locaux de la police provinciale ontarienne, OPP. La centrale de police d'Huronia-Ouest de la région de Penetanguishene en Ontario précise que les candidats sélectionnés soutiendront les agents dans leurs tâches quotidiennes. Ce programme de l'OPP permet aux personnes qui veulent avoir une idée concrète du travail de policiers de pénétrer dans leur univers. Les auxiliaires endossent un uniforme. Ils ne sont pas, bien sûr, autorisés à porter une arme à feu et non un taser non plus. Et n'entre pas qui veut dans ce programme d'auxiliaires. Les futurs auxiliaires doivent aussi passer une série d'examens et être admis. Hubert Héberge en parle avec Aaron Coulter, agent de la police provinciale de l'Ontario.
Bonjour Aaron.
Bonjour.
Commençons par le début. Pourrais-tu nous définir en une phrase ou deux ou trois? C'est quoi un auxiliaire pour la police?
Alors, c'est quelqu'un qui est un membre de l'OPP, qui est bénévole, une citoyenne qui peut nous aider en temps partiel. Il porte une uniforme un peu différent que la mienne, mais c'est une vraie uniforme policière. Et ils ont des gens qui nous aident pendant notre tâche quotidienne. Aussi, il peut aider aux événements communautaires ou pour donner les programmes pour prévenir la crime.
C'est une façon pour les gens qui ont toujours rêvé d'avoir l'habit du policier, de l'avoir sans faire toutes les cours.
Alors oui, c'est une opportunité excellente pour les gens qui veulent être policiers, qui veulent devenir policiers. Mais on a aussi des membres qui sont exiliaires pour les décennies, juste pour quelque chose à faire pour donner, redonner à la communauté. Mais pour les jeunes qui veulent devenir policiers, c'est une excellente opportunité pour essayer, savoir la métier policière. Parce que pour beaucoup, il y a les émissions à la télé. Mais c'est pas la vraie vie policière. Et c'est une bonne façon pour savoir la métier.
Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de tâches que peut faire un auxiliaire? J'imagine que ils peuvent faire beaucoup de choses, mais pas tout. Ils n'ont pas d'armes à feu, par exemple.
Oui, souvent, ils nous accompagnent dans nos tâches quotidiennes, pour la patrouille. C'est normal et c'est bon pour avoir un autre avec nous. Mais aussi, pendant les événements communautaires, comme une parade, ils sont très utiles. Aussi, nous avons quelques programmes pour prévenir la crime. Par exemple, les membres auxiliaires, on a les formations pour parler avec, par exemple, un groupe d'années pour prévenir la fraude. Nous avons un programme où les membres auxiliaires parlent avec une propriétaire d'une maison pour renforcer une maison contre un cambriolage. Okay. Oui.
Est-ce que toi, personnellement, tu as déjà travaillé avec les auxiliaires?
J'aurais adoré, mais à l'époque, dans ma petite ville où j'ai grandi, c'était un service municipal, mais et ça n'était pas disponible, mais j'aurais adoré ça, c'est sûr.
Quels sont les critères pour devenir auxiliaire de la police? Est-ce qu'il y a des tests physiques, par exemple?
Oui, c'est un processus compétitif. C'est difficile. L'OPP fait les évaluations psychologiques, financières, médicales. Il y a des tests physiques on a besoin d'un diplôme, un permis de conduire, pas de troubles criminels, des choses comme
pas
ça.
Pas de dossier criminel.
Oui, mais c'est comme d'être embauché comme policier, mais c'est aussi une bonne expérience pour les jeunes qui veulent devenir policier parce que c'est un processus similaire.
Un jour, tu vas peut-être prendre ta retraite. Est-ce que tu pourras continuer comme auxiliaire?
Alors, pour moi, je crois que 30 ans en uniforme, c'est assez pour moi. le monde est varié et je veux faire les autres choses. C'est une bonne question.
En terminant, question de Hubert. Si, par exemple, un policier est en patrouille avec un auxiliaire et que soudainement, il doit faire une intervention risquée avec un arme à feu, par exemple, il y a un braquage de dépanneur, il y a quelqu'un qui vole au dépanneur, est-ce que l'auxiliaire va devoir rester dans la voiture ou est-ce qu'il va pouvoir aider le policier?
Avec chaque cas, c'est différent. Ça dépend, mais ils ont la formation, ils ont l'équipement, un ceinture juste comme nous, sans les armes à feu. Mais oui, c'est comme policier, c'est ma job aussi de les protéger, mais en même temps, ils sont très utiles pour nous et ils ont la formation pour faire les choses avec nous. Ils n'ont pas les pouvoirs policiers, ils sont citoyens comme tout le monde, mais au Canada, chaque personne a des pouvoirs pour faire une arrestation, pour aider un policier pendant une urgence. On peut faire ça, c'est dans la loi canadienne, et ils peuvent utiliser leur pouvoir comme chaque citoyen dans une situation comme ça.
On a dit qu'il n'y avait pas d'armes à feu, mais est-ce qu'ils peuvent avoir des menottes ou un taser?
Oui, non, pas un taser, mais les menottes, un bâton, les choses comme ça.
Et donc, j'imagine que ceux que ça les intéresse, on peut aller voir sur le site de l'OPP. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'inscrire, faire les tests et tout.
Oui, c'est tout là. OPP.ca.
Parfait. Merci beaucoup, Aaron.
Merci.
On souhaite d'avoir des bons collaborateurs pour cet été.
La chanteuse et entrepreneure autochtone et francophone Christine Dandavino participe aux demi-finales de l'édition 2023 du concours nord-américain Powwow Pitch. 83 entrepreneurs répartis dans une douzaine de catégories et issus de 3 pays vont se joindre à elle. Ils sont tous résidents de ce que les autochtones nomment l'île de la Tortue. Aux yeux des Premières Nations, cette île est magique et imaginaire. Il rassemble tous les territoires de l'Amérique du Nord. Cette année, les lauréats vont se mériter des bourses de 500 à 25 000 $. Christine Dandavino est propriétaire de l'Oshawa Piano and Vocal Academy. Marine Otogali l'a rencontrée à Toronto.
Pour moi, tous les jours sont pareils. Pour moi, la vie, ça sert à rien.
Cette voix, c'est celle de Christine Dandavino, cantatrice, musicienne et surtout semi-finaliste pour le Powwow Pitch 2023, un concours d'entrepreneurs et d'entrepreneuses pour tous les autochtones d'Amérique du Nord. Christine Dandavino habite à Oshawa, à l'est de Toronto, où elle réside depuis 2005. Alors qu'elle travaillait dans un bureau à l'époque, elle a progressivement commencé à enseigner la musique.
Oui, j'ai commencé en 2005, même quand j'avais mon travail de bureau. Et puis, j'ai juste en 2013, quand ma fille avait 3 ans, j'ai quitté mon travail de bureau et je suis allée à temps plein à enseigner et à faire toutes sortes de choses en tant que musicienne. Oui.
Dans sa carrière, elle avait déjà vu passer le concours Powwow Pitch. C'est un concours de présentation pour les entrepreneurs autochtones de l'île de la Tortue qui permet de mettre en lumière les commerçants de Powwow, les artistes, les créateurs d'entreprises et les innovateurs de tous les horizons et de toutes les industries. Pour Christine, postuler n'a pas tout de suite été une évidence.
Je savais que ce concours-là existait depuis quelques années et puis cette année, je me suis dit, je vais cesser d'avoir peur et je vais soumettre une application. Et je dis toujours à mes élèves et aux gens que j'encourage à devenir des musiciens, si on n'essaie pas, la réponse est toujours non. Alors, je me suis dit, bon, je vais prendre un peu de mes propres avis et j'ai soumis une application. On était 2000 et après ça, je pense qu'on est en autour de 140 candidats. Alors, entre 2000 applications qui étaient au travers de l'Amérique du Nord, pas seulement au Canada. Alors, j'ai fait la première coupure et puis je suis bien excitée. Alors, ce jeudi, je dois faire mon pitch, alors ma présentation de 60 secondes sur Zoom. Alors, ça va être sur Zoom et puis il va y avoir des juges. Je ne sais pas si c'est 3 ou 5 juges. Et ensuite, ils vont me poser des questions et je dois répondre et ensuite, on l'attend.
La compétition permet de participer depuis n'importe où sur l'île de la Tortue. De la même façon, Christine avait apprécié la possibilité de se rapprocher des musiciens les plus reclus grâce aux nouvelles technologies. C'est là-dessus qu'elle aimerait travailler si elle remporte le prix.
Alors moi, mon entreprise va très bien, mais moi, alors on peut gagner jusqu'à 25 000 $ et moi, ce que je veux faire, c'est pendant la pandémie, j'ai enseigné beaucoup sur Zoom et moi, je veux rejoindre les artistes qui n'habitent pas dans ma région. J'ai déjà enseigné à des gens aux États-Unis, au Québec, tout ça. Et il y a beaucoup de chanteurs et de pianistes qui sont très bons, mais peut-être qu'ils habitent dans des petites villes ou des villages et ils ne peuvent pas se déplacer. Alors, avec la technologie, maintenant, on peut enseigner, on peut faire du mentorat avec des gens n'importe où dans le monde et puis on peut les aider, ces artistes-là. Alors moi, c'est ça, si je peux gagner le 25 000 $, je dois avoir la meilleure technologie et une meilleure équipe de promotion, des choses comme ça.
Participer à un concours destiné aux entrepreneurs semble curieux pour une musicienne. Mais Christine sait exactement pourquoi elle participe.
Et c'est un métier, être musicien. Il y a beaucoup de gens qui pensent, puis c'est pour ça que j'aide beaucoup les jeunes à leur dire, tu peux avoir un rêve, on peut tous rêver, mais on doit travailler, on doit obtenir un code d'éthique qui nous fait les gens nous embauchent. Alors, c'est ça, j'aide beaucoup les gens et je leur dis, il n'y a personne qui va te découvrir. Tu dois taper, cogner sur des portes, tu dois écrire des courriels, tu dois avoir toutes sortes de, toutes les médias sociaux, toutes ces choses-là. C'est beaucoup de travail et puis ça nous en donne du travail.
Christine Dandavino a soumis un dossier fin juin et les résultats sont tombés fin juillet. Mais il reste encore du travail pour la prochaine étape qui arrive sous peu.
Ça fait pas si longtemps que ça qu'on sait qu'on est semi-finaliste. Alors, on a eu des gens qui nous ont aidés et dire, OK, pour le nouveau pitch, enlève ce mot-là, fais ça. Puis, mais même à ça, c'est à nous d'avoir le meilleur pitch qu'on peut, on peut écrire et donner les réponses.
Powwow Pitch cherche à construire une communauté réelle. Et même si on ne peut pas assister aux différentes auditions, chacun peut découvrir les autres candidats et candidates.
On a toutes sortes de gens au travers de l'Amérique du Nord. Alors, il y en a qui sont dans des entreprises de soutien technologique. Il y en a d'autres, c'est médical. Alors, tout le monde a des entreprises très, très diverses. Et on a le droit de leur poser, juste de poser des questions, de dire c'est quoi tu fais, puis tout ça. Puis on a un réseau social, comme une équipe Facebook. Alors, on peut se poser des questions et s'encourager. Et je pense que ça, c'est la partie la plus encourageante parce qu'il y a des gens qui sont nerveux, il y en a d'autres qui se demandent pourquoi j'ai été choisie, puis tout ça. Alors, on s'encourage et tout le monde a été très, très gentil. Et dans le fond, on veut tous gagner, mais on veut tous aussi s'encourager.
Au-delà de ce concours, Christine est bien occupée. Elle doit jongler avec l'arrivée imminente de la première représentation d'un opéra sur lequel elle travaille depuis plus de 10 ans et dans lequel elle chantera en anglais, mais aussi en Ojibwe.
C'est un opéra, ça fait 13 ans que c'est en création. Ça va être créé à la mi-septembre à Toronto. Et puis, c'est une histoire, on peut pas en parler beaucoup, mais bon, c'est une histoire autochtone et les 4 chanteurs, nous sommes autochtones. Et c'est une histoire difficile, mais aussi qui a de l'espoir. Alors que même s'il y a des choses horribles qui sont arrivées à nos peuples, on peut maintenant en parler et on peut maintenant redécouvrir des beautés de notre culture. Et juste le fait que je peux chanter avec trois autres chanteurs d'opéra ou des artistes comme qui sont autochtones, c'est jamais arrivé dans ma carrière. Je vais avoir 48 ans dans une couple de semaines là, puis j'ai jamais vécu ça moi. Puis après ça, on a une équipe aussi de musiciens avec nous sur scène. Alors ça, c'est le Toronto Concert et puis ils sont excellents. Alors c'est une pièce très excitante et nouvelle et ça n'a jamais été produit. Alors je suis très heureuse d'être dans cette production-là.
L'opéra est une rare collaboration entre 4 compagnies qui se sont associées pour produire la pièce, des costumes à la mise en scène. Canoë The Opera se jouera au Centre Trinity Saint-Paul à Toronto le mois prochain pour sa première mondiale.
Et un mot pour saluer en terminant nos publics et collaborateurs des territoires du Nord-Ouest chez qui on diffuse l'émission Point de vue et qui sont aux prises à leur tour avec d'importants feux de forêt. Plusieurs ordres d'évacuation sont en cours dans les TNO. L'état d'urgence aurait même été décrété à Yellowknife, la capitale. On espère, au moment où nous diffusons cette émission, que les conditions se sont améliorées et que la pluie est arrivée en renfort pour tous les résidents du territoire. Pour avoir des échos des TNO, suivez les reportages de notre confrère Raphaël Hamel, qui travaille à Yellowknife et qui suit l'évolution de la situation pour nous. Sur le terrain, on le remercie, lui et les journalistes d'aujourd'hui que sont Marine Autogali, Hubert Théberge, Daniel Aucoin et Camille Danis. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Merci à nos radios partenaires et à vous de nous tenir compagnie. Restez à l'écoute de l'émission qui suit. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. À la semaine prochaine. Ciao. We'll be right back.
Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.